Mémoire vive, présenté par Perrine Carvran et préparé par Rachel Rimer. Bonjour, au sommaire aujourd'hui du théâtre, avec la pièce qui se joue vendredi 16 décembre 2016 au Théâtre de l'Ouest parisien à Boulogne-Billancourt.
C'est l'histoire absurde et tragique d'un couple d'Allemands qui, à la fin de la guerre, cache un juif dans son grenier en échange d'un fort loyer et de divers travaux. L'homme vit reclus, plein de gratitude pour ce couple qui, une fois la guerre terminée, décide de ne pas le dire à l'homme du grenier pour continuer à bénéficier de son argent. L'homme dans le plafond, c'est le titre de cette pièce de l'auteur australien Timothy Daly, une pièce mise en scène par Isabelle Starkey qui est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment vous avez découvert cette pièce et pourquoi vous avez eu envie de la mettre en scène ?
Pardon. Alors j'ai découvert cette pièce, en fait, je l'ai découverte parce que ça fait maintenant la troisième pièce que je monte de Timothy Daly. La première c'était le bal de Kafka, sur laquelle d'ailleurs la Fondation aussi nous avait aidés sur ce spectacle et je l'en remercie. Voilà, et c'était une pièce autour de Kafka, du théâtre yiddish, qui a très très bien marché, qui a énormément tourné, qui s'est joué à Paris, qui s'est joué à Avignon. Et à la suite de ça, on a vraiment développé une amitié artistique et humaine, bien entendu, mais aussi artistique. C'est-à-dire on a vraiment senti que l'écriture qu'il a, lui, qui est toujours entre le réel et la fiction, entre le rêve et effectivement le rêve ou le cauchemar et la réalité, sont des choses qui, moi, m'interpellent beaucoup en tant que metteur en scène. C'est très théâtral, par définition, de passer d'un plan réaliste à un plan totalement onirique. Donc, on a retravaillé ensemble sur une pièce qui s'appelait Richard III ou presque, qu'on a joué au Lucernaire, qui était là une commande que je lui ai faite autour du personnage de Richard III. Et il m'a confié, et je te l'avoue que c'est un très beau cadeau, il m'a confié cette pièce qu'il avait écrite, qui n'a pas encore été montée en Australie et qu'il souhaiterait que je monte en Australie. Donc ça aussi, ce serait formidable.
Une belle aventure.
Oui, c'est une très belle aventure. Et quand j'ai lu la pièce, c'est comme quand j'ai découvert le bal de Kafka, où là, par contre, je ne connaissais pas l'auteur et j'ai tombé en amour avec cette pièce autour de Kafka. Là, cette pièce m'a semblé absolument formidable parce que justement, elle est, d'une part, c'est une comédie. C'est-à-dire, c'est quand même drôle. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que le rire est quelque chose qui attaque beaucoup plus profond, je pense, que même les larmes, d'une certaine façon. Parce que rire, ça fait mal aussi. C'est pas juste, on s'apitoie pas sur soi-même ou sur les autres. On a mal parce qu'on rit toujours de nous-mêmes, d'une certaine façon. En tout cas, dans cette pièce, on rit de nous-mêmes, j'espère, en tout cas.
Oui, c'est
ce qu'on a travaillé. Mais voilà, donc on a c'était une comédie. Le sujet me touchait énormément parce que je trouve qu'il y a un devoir de mémoire qui est toujours, je dirais, encore plus urgent aujourd'hui, pas seulement par rapport à la jeune génération, mais par rapport à un ras-le-bol qui dit oui, ça suffit, c'est bon, il y a eu plein d'autres choses depuis. Ben non, il n'y a pas eu plein d'autres choses. Ça raconte quelque chose de façon métaphorique, cette histoire de la Shoah. Ça renvoie quand même à comment à l'abîme de l'être humain, je pense. Et ça annonce, et ça permet de comprendre le reste. C'est pas nier ceci pour pas une rivalité, on fait pas la guerre à la récré, quoi. C'est voilà, donc c'était pour moi important. Et puis je trouve que cette façon qu'il a de décaler du réalisme de la situation, qui est un vrai fait divers, qui a vraiment existé, et de nous faire comprendre comment ça a pu exister, comment on l'a raconté après, et aussi le décaler dans le rapport que ce juif a avec les étoiles. Enfin, il y a des choses quand même très... Et puis avec ce narrateur qui joue l'accordéon, qui vient un peu accoucher tout le monde, ennuyer tout le monde, etc., les contrarier. Ça me paraissait vraiment une sublime pièce.
Oui, vous avez effectivement, Isabelle Starkey, beaucoup travaillé ces questions de la guerre, ces questions de la résistance, ces questions de l'antisémitisme dans votre travail de metteur en scène, mais aussi dans votre travail d'auteur.
Oui, alors plutôt de metteur en scène, oui, d'auteur, je dirais, plus sur le côté universitaire, qui est aussi mon deuxième volet. Mais c'est vrai que ce qui me fascine dans l'acte de résister ou de collaborer, c'est je trouve que c'est une période fascinante de ce point de vue, c'est qu'effectivement, ça montre à quel moment on peut basculer, à quel moment n'importe qui peut basculer. Il n'y a pas les méchants et les bons. Et c'est justement une histoire où n'importe qui peut être méchant et n'importe qui peut être bon. Et que ça interroge vraiment sur, sur l'être humain, sur les limites qu'il peut supporter, sur les choses qu'il peut refuser à un moment donné, le courage que ça demande, ou au contraire la lâcheté, la lâcheté étant la chose du monde la mieux partagée. C'est vrai que ça interroge sur aussi des actes, je pense aujourd'hui, au quotidien. Je pense qu'on est tous dans cette problématique de se dire à quel moment on peut dire non, à quel moment on peut bouger des choses qui peuvent être difficiles dans sa vie quotidienne, mais qui permettent aussi d'être dans le contrat social, dans le rapport à l'autre.
Alors, vous avez changé le titre de la pièce, c'est intéressant de le remarquer. Le titre original était L'homme dans le grenier. Et
absolument.
Vous l'avez appelé L'homme dans le plafond. Alors, pourquoi avoir voulu changer ce titre ?
Parce qu'en fait, j'ai même regretté après, et tout le monde m'a dit, tu aurais dû l'appeler Un homme dans le plafond. Parce que, pourquoi L'homme dans le plafond ? Parce que j'ai pensé beaucoup à l'araignée dans le plafond. Et qu'effectivement, ce juif, il est très dérangeant quand même. C'est à partir de cette idée de le garder, où il est à la fois en même temps, il pèse sur leur conscience, en même temps, c'est une espèce de voilà, c'est pour moi, c'était vraiment ça rendait aussi non pas seulement la situation réelle, mais ce que ça déclenchait dans la tête des individus qui allaient en profiter, ou bien au contraire, en disant oh, c'est pas bien ce qu'on fait. Enfin voilà.
Alors on l'a dit, hein, cette pièce est tirée d'un fait réel, donc qui a eu lieu à Munich dans les derniers mois de la guerre. Donc un couple d'Allemands cache dans son grenier un juif en échange donc d'argent et de services. Et une fois la guerre terminée, décide de ne pas le prévenir de la fin de cette guerre. Comment vous avez eu envie de mettre en scène, de raconter cette histoire-là, qui est donc une histoire qu'on a pu aussi voir se reproduire à d'autres moments, à d'autres endroits, à la même période.
Mais c'est hallucinant même. Il y a eu des centaines de cas en France. Il y a eu un juif qui est resté caché pendant un an après la guerre. En Pologne, paraît-il, pendant 6 ans, il y a eu un procès retentissant autour de cette histoire d'un juif qui s'est enfermé 6 ans après la fin de la guerre. Enfin, des choses absolument... comment la mettre en scène ? En fait, le texte était quand même très, très intéressant, parce qu'il montre vraiment... Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a décidé, puisque dès le début de la pièce, dans la didascalie, il est dit cette histoire est tirée d'un fait divers. Donc on nous dit elle a réellement existé. Et on nous raconte tout de suite, on nous dit dans la didascalie, un couple d'Allemands, etc., va garder un juif après la... Donc on a choisi de le mettre, de le projeter, puisqu'il y a tout un jeu avec la vidéo, de le projeter dès le début. Et beaucoup des spectateurs avec qui j'ai pu parler m'ont dit, bon, au début on s'est dit, oh là là, bon, on sait déjà ce qui va se passer, quel intérêt. Ils ont dit, mais non, parce qu'effectivement, après on a compris pourquoi, parce que ce qui nous intéressait, c'était plus ce qui allait se passer, mais comment ça allait se passer et pourquoi ça a pu se passer. Parce qu'effectivement, on aurait pu garder le suspense. On s'est posé la question, est-ce qu'on garde le suspense ? On démarre comme ça tranquille et puis clac. Mais en même temps, le coup de théâtre est beaucoup moins intéressant à mon avis, parce que malheureusement, c'est pas un coup de théâtre, c'est un coup de chaud du réel, que justement ces individus qui, très insensiblement, glisse vers le « bah oui, pourquoi pas le garder, c'est quand même pratique, on va plus pouvoir manger, même lui, il va plus pouvoir manger, parce que voilà, c'est très dur, la guerre, puis il va avoir des horreurs, alors autant le protéger ». Enfin, ils justifient en plus leur acte, ce qui est quand même... et ils le justifient, c'est là-dessus que la pièce est aussi assez fascinante, ils le justifient après la guerre. Ça, c'est une pièce qui est qui a plusieurs narrations. Il y a la narration qui est jouée, donc de ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé. Et puis, il y a des personnages qui sortent de l'histoire et qui viennent raconter, comme une sorte d'après-guerre, pourquoi ils ont fait ça. Et comment, comme une sorte de jugement du tribunal de l'histoire. Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a à la fois comment ils ont pu basculer, mais aussi comment après, ils se sont justifiés. Ils se justifient en disant, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Ça m'a semblé être la meilleure solution. Pour tout le monde, y compris pour le juif.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est cette espèce de jeu malsain entre la gratitude du juif qui, parfois quand même, a quelques doutes, et puis en même temps se dit non, je suis ingrat, je ne peux pas douter d'eux, ils me protègent, ils risquent leur vie en
tout
me protégeant, ce qui est vrai.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Et puis toute cette mauvaise conscience de ce couple qui se rend bien compte que certes, ils le protègent, et ils se le répètent pour se convaincre, mais surtout, ils en profitent.
Ah bah, oui, bien sûr, et le personnage à la femme est à mon avis la plus fascinante dans sa complexité, parce qu'elle, elle a vraiment mauvaise conscience. Elle dit sans arrêt, on n'a pas le droit, on ne peut pas faire ça. Et en même temps, c'est elle qui la pousse le plus, qui va monter la machination, faire croire aux juifs, bon, que je ne raconte pas, parce que sinon les gens ne vont pas venir voir. Mais c'est elle qui va monter la machination, qui va permettre au mari de conserver le juif dans le plafond.
Oui, parce que ce juif est aussi finalement un interlocuteur.
Oui, c'est aussi, elle en tombe d'ailleurs amoureuse, mais est-ce que l'un, effectivement, garde le juif pour l'argent, l'autre le garde par amour ? Enfin, je veux dire, c'est quand même de l'intérêt personnel, c'est pas de l'amour au sens, on peut dire, altruiste.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette pièce donc, tire effectivement vers l'universel, vers ce que la guerre a de cruel, vers aussi la question de la persécution des Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous traitez les deux, c'est-à-dire que vous montrez bien, enfin, dans cette pièce, on voit bien la cruauté, la persécution qui est faite aux Juifs pendant la guerre, et puis la dureté, la cruauté de la guerre au quotidien pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
Pas du tout à la même échelle, ni de la même manière, bien sûr. Mais ça reste une période où tout est bouleversé pour tous.
Absolument, c'est une période de crise. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est dans ces périodes de crise forte que tout d'un coup, l'être humain va jusqu'au bout, je dirais, d'actes les plus insensés. Mais c'est vrai que... ou se permet, justement, parce qu'il n'y a pas de repère. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'elle raconte la grande histoire par la petite histoire. Parce qu'en fait, on est dans ce microcosme du mari, de la femme, de la voisine et du juif. Et évidemment, le narrateur qui vient raconter un peu tout ça à sa manière. Mais c'est une toute petite histoire. Et à travers ça, on voit effectivement les ruines de Berlin. On voit ce qui se passe là, le fait qu'ils aient eu faim, le fait que, effectivement, et qu'ils, d'une certaine façon, et ça, c'est intéressant parce que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu et qu'on continue à entendre d'une certaine façon. C'est comment, finalement, après-guerre, quand ils racontent l'histoire, ils disent « Mais nous aussi, on était des victimes ». Et ça, c'est incroyable quand on se dit non, c'est pas possible que les gens arrivent à s'auto-justifier en se mettant eux-mêmes en position de victime. Et c'est pourtant quelque chose qui, à mon avis, a empêché totalement l'autocritique et le mea culpa après la guerre. On dit, mais nous aussi, il n'y a pas qu'eux qui souffraient, nous aussi, on souffrait. C'est évidemment tellement disproportionné qu'on a envie d'en rire. Et c'est pour ça que c'est fort, parce qu'on en rigole. Il y a une telle... je pense que dans cette pièce, il montre bien l'absurdité cocasse de cette situation. Et on en rit parce qu'on se dit c'est incroyable. Quoi. C'est vrai. Et c'est vrai. D'ailleurs, le narrateur dit toujours c'est une histoire vraie. Il nous rappelle toujours que c'est une histoire vraie.
Alors, il y a plusieurs personnages dans la pièce. Alors, je pense que peut-être vous pourriez essayer de nous décrire à grands traits ces personnages qui sont alors presque des archétypes aussi, hein, qui vous
tout
servent
fait,
comme ça de révélateurs. Donc, il y a le mari.
Voilà, d'abord. Le mari. D'ailleurs, ils s'appellent le mari, la femme. Bon, ils ont des noms, on le sait au fur et à mesure, mais dans la pièce, c'est le mari, la femme, la voisine. Donc, ce sont des archétypes, vous avez tout à fait raison. Alors, bon, le mari, effectivement, c'est le personnage. Je dirais que c'est le bon vivant. Enfin, c'est un peu, on a pensé beaucoup à ces personnages un peu truculents, comme ça, comme Carmet, ou enfin que jouait, pas le pauvre Carmet, mais le personnage qui jouait souvent au cinéma, personnage un peu truculent, qui aime bien faire rire les copains au bistrot, qui est plutôt bonhomme, sauf que lui, il aime bien avoir à manger dans son assiette, et d'une certaine façon, il dit je suis pragmatique, donc moi, si c'est mon intérêt là, bah voilà, il y a un moment donné, comme il y a une très belle phrase à un moment donné, il dit « J'ai compris ceci, seuls les animaux survivent à la guerre, à partir de ce jour-là, plus rien n'a jamais été pareil. » Effectivement, lui dit « Bon voilà, on est des... » D'ailleurs, il a une trogne un peu de cochon, comme ça on l'a un peu maquillé pour... Mais c'est vrai que lui ne se pose jamais de questions morales. Lui, il se pose la question de l'efficacité, il dit « Franchement, on ne pouvait rien faire d'autre. » Et en faisant ça, j'ai sauvé le juif, je nous ai sauvés, donc, ma foi, voilà, bon, il finit par tuer la voisine quand même, mais... Je veux dire, comme elle est méchante, somme toute, il pourrait le justifier aussi. Il dit, le monde entier me dégoûte, j'ai été obligée de faire ça, j'ai pas voulu. Donc ce personnage est assez révélateur, je pense, d'un certain nombre d'individus qui ne font pas par fanatisme ou par idéologie, mais qui font parce qu'ils se disent, finalement, si c'est pas moi, ça sera un autre. Ce qui est évidemment la pire des choses. Après, il y a la femme qui, elle, est, je dirais, la bonne conscience, qui est celle qui n'est pas du tout, qui n'est pas nazie, qui ne va pas dans le sens du régime, qui, à mon avis, est même contre le régime nazi, et qui trouve ça très mal, qui dit, d'ailleurs, les Juifs sont des êtres humains, qui trouvent très mal ce qui se passe, sauf que, voilà, elle se dit, elle aussi, elle aime bien manger, bon, son mari décide, elle le laisse un peu décider, et puis elle tombe amoureuse du Juif, et donc elle va décider de le garder pour son confort personnel, tout en, sans arrêt, en disant, non, c'est pas bien, ce qu'on fait, c'est terrible, et en reprochant à son mari d'être un sale individu. Et en disant, mais moi, je ne suis qu'une victime. Donc, elle, c'est celle qui laisse faire, qui dit, c'est pas de ma faute, moi, je laisse les gens partir dans les camps, mais je n'y suis pour rien. Et puis, il y a la voisine, qui est l'archétype d'un personnage de nazi, que moi, je trouve très intéressant, parce que c'est pas du tout une idéologue. Bon, son mari est un fonctionnaire du parti nazi, mais on sent que c'est la revanche, espèce de revanche des humbles, enfin de ceux qui se croient humbles et anonymes, et qui au lieu de se bagarrer pour être autre chose, ou en tout cas pour revendiquer, comme on a pu le voir sur un prolétariat qui revendiquait le fait d'être une force, non, elle se dit, moi, je vais prendre ma revanche, puisque c'est une situation où je deviens la reine du monde, et qu'il y a une espèce de jubilation transgressive totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune limite. Elle peut tout faire, et c'est vrai que c'est jubilatoire d'une certaine façon. Elle peut tuer, elle peut rentrer chez la voisine et lui dire qu'il a toujours certainement peu considéré du haut. Il y en a une qui est institutrice, l'autre on s'est dit qu'elle devait être, je sais pas, qu'elle devait avoir un métier, en tout cas où on la considérait pas. Et donc qui tout d'un coup arrive et qui dit, voilà, je rentre chez toi, je fais ce que je veux, je prends ton mari, je mange, je tue, je bois, je je pique du fric. Enfin, il n'y a aucune limite. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, que ces situations de crise laissent apparaître. C'est-à-dire des gens qui, effectivement, ont une espèce de revanche à prendre sur les repères, sur l'éthique, sur la morale, sur chose on leur a dit c'est bien, c'est pas bien, qui disent moi j'ai été humiliés ou qui se sont sentis humiliés, disent donc voilà, plus de repères, je suis le roi du monde. Et c'est un peu, ça met des petits, ça fait quand même frissonner parce que c'est vrai que c'est effrayant, mais c'est aussi, je pense, beaucoup ces personnages-là, on les trouve en Bosnie, enfin tout ça, ce sont pas des idéologues, ce sont pas des gens qui ont défendu, je sais pas, Heidegger, c'est pas des gens comme ça, c'est pas des gens qui ont cautionné ou qui ont réfléchi à une idéologie. Des gens qui simplement se disent, mais c'est formidable, quoi, je suis...
C'est l'opportunisme et la revanche.
Et la revanche, et c'est très bien, enfin, je viens de lire un livre que j'ai adoré, qui est Le nazi et le barbier d'Elgar Ilsenrath, et il décrit très, très, très bien ça, avec cette coiffeuse à moitié prostituée, enfin, qui vit effectivement une sorte de misère, mais qui d'un coup dit, mais c'est ma revanche, et maintenant j'emmerde tout le monde, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, quoi, c'est une sorte... Et ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, moi, je trouve, dans le discours du Front National. Et c'est très, 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 très dangereux. C'est-à-dire, c'est la revanche. On brûle les livres parce que effectivement le livre, c'est ce qui explique et qui raconte le monde avec une sorte de repère comme ça. Je dirais pas de bien et de mal, mais en tout cas de données, de valeurs qui font appel à l'intelligence. Et là, c'est vraiment au contraire. On brûle les livres et donc, allons-y, quoi. C'est la chair, c'est le sang, c'est le sperme. Enfin, c'est tout ce qui va aller dans la bestialité.
Alors, il y a un autre personnage. Donc, il y a bien sûr le juif caché et puis le narrateur. Donc, ces deux personnages-là.
Alors, le juif caché, c'est intéressant parce que c'est aussi une pièce, je pense, qui a cette force de ne pas être manichéenne. C'est-à-dire qu'elle montre aussi... Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup interrogée parce que c'est aussi plus proche de mon histoire. Elle montre aussi, je pense, à quel moment peut-être il ne veut pas voir, il n'a pas voulu voir, et ça nous interroge sur à quel moment, notamment, bon, enfin moi je sais que mon grand-père allait dans les maisons puisqu'il faisait partie de la Moy pour dire aux gens en yiddish ne partez pas, ne vous faites pas mettre le tampon, ne répondez pas aux convocations du et enfin, ses voisins, ses amis lui disaient mais c'est pas possible, la France c'est une terre de liberté, la police française ne pourra jamais, c'est pas les Allemands. Enfin, c'est une espèce de cécité alors que on s'est dit mais comment ils ont fait pour ne pas comprendre, pour ne pas entendre. Il y avait des gens qui le comprenaient, qui entendaient, quand ils avaient de l'argent ils partaient, quand ils n'avaient pas d'argent ils militaient, ils se battaient aussi ou aussi par conviction ils restaient pour résister. Et donc je veux dire certains auraient pu dire non. Et ben non parce que voilà, il y a une espèce de peur aussi et de confort qui fait c'est beaucoup plus dangereux de résister à un moment donné. Donc on se dit, on va y aller. Et effectivement, on y va. Alors ça n'accuse pas, mais c'est un processus. Moi, je dois avouer qu'il m'interroge beaucoup aujourd'hui parce qu'on est quand même en train, tout le monde dit Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. Et moi, en tant que juive, je me dis, est-ce que je vais être assez vigilante? Est-ce que je vais avoir le courage de garder les yeux bien ouverts et de me dire que ça peut être très dangereux pour nous? Et de faire ce qu'il faut en temps et en heure et pas de me dire, mais non, comme beaucoup de mes amis, mais non, on est en démocratie, c'est pas son père, et puis voilà, et puis le Front National, c'est devenu un mouvement comme un autre. Voilà, mais c'est ce qu'on a dit aussi, enfin, en 1933, Hitler est arrivé au pouvoir par les élections, je fais pas de comparaison, mais je veux dire, il y a quelque chose quand même qui...
Il faut quelque chose que vous voulez garder en tête, en tout cas.
C'est quelque chose, je pense, une vigilance, à se dire, attention, pour notre confort, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, de partir du jour au lendemain, j'imagine, les gens qui ont cette attitude ont pris un risque en se disant, peut-être que finalement, il va rien se passer, mais voilà... En voyant ce qu'écrivait Hitler déjà en 1928, notamment, il écrivait quand même si on tenait les Hébreux sous les gaz. Je veux dire, il avait déjà écrit les chambres à gaz en 1928. On n'a pas vu, on n'a pas pu, on n'a pas voulu. Et ce juif, je pense, est très révélateur. Cette espèce d'image de type qui ne fait pas à un moment donné l'effort de... Pas l'effort, j'aime pas parce que c'est un mot qui juge, mais qui en tout cas ne se dit pas « je vais quand même essayer de regarder ce qui se passe ». Parce qu'il se dit « c'est comme ça ». Et le narrateur, alors là, qui est le spectateur contemporain pour moi, qui est celui qui interroge, qui dit aujourd'hui « mais comment vous avez pu faire une chose pareille ?» Et ça, c'est aussi l'interrogation qu'on a.
Alors cette pièce aussi a un dispositif scénique qui est intéressant. Donc il y a cet écran qui partage la scène en deux, sur lequel sont projetées des images, sur lequel sont projetés des mots. Et puis cette structure qui est au centre de la scène, qui symbolise la maison, une structure légèrement bancale, on dirait la charpente d'une toute petite maison. Comment vous avez imaginé ce dispositif?
Alors en fait, moi je l'ai imaginé avec le décorateur, puisque je n'ai pas imaginé le dispositif. C'est lui qui l'a imaginé à partir de... du travail préliminaire, donc avec Jean-Pierre Benzécry. Je pense qu'effectivement, on voulait avoir quelque chose de bien entendu pas du tout réaliste, c'est-à-dire pas un vrai grenier avec une coupe de maison. On voulait avoir cette structure où effectivement, le juif est toujours là, en même temps que c'est que tout... on n'oublie jamais les personnages, même quand il se passe quelque chose ailleurs, ils sont présents dans la maison en bas ou en haut, et en haut évidemment. Et donc ce côté à la fois délabré, déséquilibré, presque ruiné de la maison, dont effectivement on ne voit plus que la charpente d'une certaine façon, avec derrière l'écran, au départ c'était l'idée de remettre la réalité de l'image d'archive, parce que je pense que dès qu'on pense à la Seconde Guerre mondiale, on a ces espèces d'images en noir et blanc. Voilà. C'est très marrant, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'ils vivaient en noir et blanc, parce que je ne peux pas imaginer en couleur cette période. J'imagine en noir et blanc. Donc, on a travaillé sur le graphisme. Alors, après, on est parti d'une réalité et on l'a... Jean-Pierre Benzécry l'a travaillé sur des plans graphiques qui donnent, effectivement, à la fois qui permettent de rentrer dans la tête des individus ou de donner les ruines comme une sorte de fond de décor. Et ça permettait vraiment d'avoir un décor sublime derrière. Et derrière le tulle, il y a la voisine. Donc, on a encore un troisième plan. Ce qui permet des jeux de profondeur et de simultanéité.
Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est la façon dont, finalement, même enfermé dans un grenier, le monde ne peut pas s'empêcher d'atteindre le juif. C'est-à-dire que ce soit la musique qu'il entend par la radio, les lapsus que commet la voisine, ou les voitures avec les haut-parleurs des Américains qui tournent dans lui. C'est-à-dire que même isolé, même enfermé, finalement, le monde arrive jusqu'à lui.
Le monde arrive, et c'est ce qui va faire quand même qu'à la fin, il va y avoir un déclic. Mais c'est vrai qu'il met du temps. Ce que lui dit le narrateur, il lui dit, mais enfin, réveillez-vous, vous voyez rien, vous n'entendez rien. Mais effectivement, les lapsus sont assez drôles quand la femme lui dit je suis allée voir un film de Charlie Chaplin, et qu'il dit ah bon, le Führer autorise les films de Charlie Chaplin. Avec en général, les gens rient parce que c'est bon, il y a des moments cocasses comme ça, mais qui sont en même temps terribles, parce que on se dit mais voilà, réveille-toi quoi, Charlie Chaplin, c'est pas possible. Et il se dit oui, c'est un plan de paix, lui dit c'est un plan de paix de l'Allemagne victorieuse avec l'Amérique.
Merci encore. Je rappelle donc Isabelle Starquier que vous avez avec votre compagnie monté et mis en scène la pièce L'homme dans le plafond avec donc Michel Brûlé, Vincent Jaspard et Nathalie Royer. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.